Vraiment, pour moi, Barcelone, c'était une découverte extraordinaire. Ça sortait de toutes mes conceptions. C'est comme découvrir la haute montagne quand on est du plat pays.
Et alors cette découverte, vous allez un petit peu vous enraciner quand même dans cette région,
Oui.
puisque vous allez connaître le milieu catalan. Donc on est dans les années
Oui.
60, la culture catalane est une culture étouffée à cette époque-là, officiellement,
Oui.
par le régime franquiste, qui est demeuré quand même un régime de fer jusqu'à la fin, hein, jusqu'en 1975. Vous allez faire votre mémoire de licence sur un poète catalan, Gabriel Ferrater. On a eu le plaisir d'ailleurs à cette radio de faire une émission sur lui, et grâce à vous,
Ah.
parce que on a eu vos avec les traductions que vous avez fait de Gabriel Ferrater, on a donc pu faire une émission et lire largement dans des extraits
Ah
de
bon.
Gabriel Ferrater. Donc vous, poète belge, qui arrivez à Barcelone, qui faites un mémoire sur un poète catalan, qui est aussi quand même, comment dirais-je, assez déroutant dans sa...
Oui. Ah oui,
qui
ça,
est...
il a tranché, ça, il n'y a pas
C'est quand même extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez vécu avec Ferrater, comment était ce personnage qui avait un côté aussi quand même, malgré tout, assez tragique.
Ben oui, parce que donc il était originaire de Reus, une ville au
Oui,
sud de Barcelone.
bien, oui.
Son père était négociant en vin, et alors au moment de la guerre civile, l'entreprise a été collectivisée, ils se sont enfuis en France, puis la France est entrée en guerre, et donc ils ont dû revenir à Barcelone, à Reus, et puis le père s'est suicidé. Donc, à cause d'une faillite, le père a fait faillite, et le père s'est suicidé. Et donc, pour faire leurs études aux enfants, la famille est allée s'installer à Barcelone, la veuve, donc, et les trois enfants, c'est-à-dire Gabriel aîné, Joan le second et la sœur Amélie. Et puis, finalement, Gabriel n'a pas fait d'études parce qu'il était déjà fort perturbé.
Il enseignait quand même à la faculté.
Il
Il
a,
a
à la
enseigné.
fin de sa vie,
Oui.
de sa courte existence, parce qu'il est mort à
50
50
ans.
ans, oui, il a, parce que c'est un homme extrêmement curieux, hein, donc qui pouvait apprendre très facilement toutes les langues. Donc, pour l'éditeur Serge Barral, il était lecteur, il conseillait donc les auteurs à traduire, et en même temps, il lisait toutes sortes de revues, et finalement, il s'est beaucoup intéressé à la linguistique. Donc, dans les années 70, c'était la mode de Chomsky, etc., le structuralisme. Et finalement, il enseignait la linguistique à l'université de Barcelone. Donc, la nouvelle linguistique. Et avant, il a aussi donné des cours de littérature parce qu'il avait une culture extraordinaire. Il a donné des cours sur la littérature catalane, plus particulièrement. Voilà. Donc, moi, si vous voulez, j'ai découvert la poésie, la nouvelle poésie réaliste, je dirais, grâce à lui.
Quel était son impact dans cette époque-là, dans le milieu
Mais écoutez, là,
catalan?
dans le milieu catalan,
Il était connu, il
il a
était...
été pas aussi connu que j'ai cru qu'on le connaissait, parce que pour moi, évidemment, c'est un homme extraordinaire, mais il était assez mal reçu, hein, parce que donc il y a tout de même dans la société catalane, je dirais bourgeoise, assez catholique malgré tout, les prêtres sont catalanisants, ils disent, comme un peu les curés flamingants ici en Belgique, qui promouvaient le flamingantisme, les curés, les prêtres catalans étaient assez catalanistes. Donc, si vous voulez, l'imprégnation catholique était assez forte dans les milieux catalans. Et Gabriel Ferrater, qui était anticlérical, et même assez fortement, était mal reçu dans ce milieu-là. En plus, son comportement, parce qu'il faut le dire, il était alcoolique, hein. Gabriel Ferrater était alcoolique, il était tombé dans un alcoolisme très, très profond. Il lui faisait prendre des attitudes tout à fait choquantes parfois, n'est-ce pas? Mais ceci dit, les gens qui le connaissaient un petit peu avaient respecté son immense érudition et aussi sa poésie, parce que quand il s'est mis à écrire, il a fait la différence, parce que justement, il a commencé à écrire des poèmes réalistes qui n'avait pas peur de dire justement la réalité catalane avec non seulement ses bons côtés, mais aussi ses mauvais côtés.
Et il était beaucoup lu à cette époque-là, il était.
Il commençait à être connu, donc en tout cas dans le milieu universitaire, dans le milieu de l'édition aussi, il commençait à être connu. Et alors, après sa mort, bien sûr, il a marqué. Et parce que, donc, il était ami de Jaime Gil de Biedma, un poète catalan, mais écrivant en espagnol. Et Biedma, c'est une référence absolue dans la poésie espagnole contemporaine. Tout le monde se réfère à Biedma comme un moment pivot de la poésie espagnole. Pour faire un taire, c'est différent parce que, alors que avec Biedma, on pouvait faire école, je veux dire. Faire taire, c'est difficile. Il eût été difficile, je pense, au catalan de faire. Il a fait école un peu, mais je veux dire que le seul disciple qu'il ait eu vraiment, c'est moi, en français, quoi. Et pour moi, c'était plus facile, peut-être parce que j'entends une autre langue. Voyez. Je pense sa poésie est tellement, je dirais, totalisante, elle prend une telle surface qu'elle bouge presque le paysage, quoi. Il y a quelqu'un qui essayait d'écrire comme lui en reprenant les formes fixes anciennes, mais il n'a pas son génie. Enfin, son nom m'échappe actuellement. Mais donc, ce qui marque cette nouvelle poésie, je dirais, c'est l'emploi des formes anciennes. C'est le moteur de l'écriture. C'est ce qui permet au poète de dire, de s'exprimer. C'est ça l'essentiel. Alors, il y a d'autres poètes qui ont essayé, par exemple, de reprendre d'autres formes anciennes. Enfin, le type même du poète contemporain qui a fait ce genre de choses, c'est le poète anglais Winston Hugh Auden. Auden a repris la strophe de Byron dans le Don Juan. Je ne sais pas si vous connaissez le Don Juan de Byron, c'est une espèce de long poème, d'ailleurs inachevé, où il dit tout, n'importe quoi. Il exprime aussi le mobile et la narration de la vie de Don Juan. Mais enfin, la réalité, c'est qu'il parle de la vie contemporaine sur un mode d'ailleurs ironique et souvent satirique. Eh bien, Gabriel Ferrater a fait la même chose, il a repris, je dirais, le conte de Chrétien III, et il s'est mis à raconter comme ça une espèce de roman du Moyen-Âge, mais en fait, le héros, c'est un ouvrier catalan pendant la guerre civile. Ça, c'est le, je dirais, c'est le. L'argument. Mais là, il n'y a que des digressions continuellement, n'est-ce pas, dans lesquelles il fait des réflexions philosophiques ou bien des commentaires politiques, etc.
Donc,
Dans un endroit.
en épousant cette forme
Oui,
traditionnelle.
voilà.
En épousant
Et
cette forme.
commence carrément avec le début, comme d'un roman de Chrétien III, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez je ne sais pas de quel moment, celui qui raconta des nec et des rec et des nids, etc. Et bien lui, il dit aussi en catalan, el que va emprenyar, celui qui a emmerdé monsieur un tel et monsieur un tel, en écrivant des poèmes. Et bien vous allez voir, il va se remettre aussi. Il s'y remet, sans complexe, il va vous dire exactement les choses. Et puis alors, il commence par faire un salut à tous les gens qu'il connaît, etc. Il cite des noms. Oui. C'est une chose que j'ai apprise de lui aussi, c'est citer des noms, donner des dates, des faits concrets, oui, bien précis. Oui. Et alors, il a de temps en temps des envolées, je dirais, philosophiques. Par exemple, il dit All science, comme on dit, gouvernement science, finsque sans brave. Vous comprenez? Mais vous connaissez l'occitan tout de même, vous parlez l'occitan, pas beaucoup. Parce que le catalan n'est qu'un
Oui,
dialecte de
écrit l'occitan.
l'occitan, n'est-ce pas?
Oui.
Donc, normalement, un occitan devrait comprendre mieux le catalan. Soit. Ben, ça veut dire donc, les années, comme le vin, bonifient avec les années, jusqu'à ce qu'elles s'éventent. Parce qu'il veut dire que donc, la vie humaine, justement, s'enrichit au fur et à mesure qu'elle avance dans le temps, elle s'enrichit, elle devient plus intéressante. Plus on vit, plus la vie est intéressante, jusqu'à ce qu'elle s'évente, comme le vin. Le vin, plus il vieillit, plus il s'améliore, jusqu'à ce qu'il s'évente. Voilà une réflexion, je dirais, philosophique, enfin, d'une certaine façon, de constatation existentielle, et qu'il dit avec un bonheur merveilleux, au détour d'une narration, il parle de cet ouvrier, etc. Voilà. Et c'est ce poème inachevé, c'est le titre de son long poème octosyllabique. ce poème est truffé ainsi de trouvailles qui lui font, je pense, pour la culture catalane, pour la Catalogne, c'est une référence, je dirais. Oui, un peu comme Boileau, qui écrit C'est en vain ou bien 100 fois sur le métier, remettez-vous. Vous voyez, des phrases, je dirais, types comme ça qui restent dans la culture française, ou bien Qu'importe le flacon pour une ivresse, n'est-ce pas, de ces... Qu'est-ce qui écrit ça? Personne ne sait, l'assemblée. Eh bien, c'est Alfred de Musset. Je vois Alfred de Musset. A écrit cet alexandrin qui apporte la femme. C'est devenu une phrase type dans la culture française. Et Ferrater est l'auteur, je pense, qui est devenu une référence comme ça, parce qu'il a de ces trouvailles verbales frappantes.
Donc il marque la culture catalane. D'ailleurs, quand on regarde, c'est vrai que maintenant, il fait quand même, c'est une figure emblématique de la culture catalane.
Oui, certainement. Maintenant, Ferrater.
Influence également, donc ça vous a beaucoup influencé quand même cette...
Ça m'a révolutionné, disons le mot carrément.
Non, mais c'est extraordinaire d'être allé chercher cette influence, vous, de Belgique, d'être allé la chercher en Catalogne.
Je peux vous répéter en quelques mots de ce que je dis toujours dans ces occasions pour expliquer ce phénomène, effectivement, d'un Belge Jean Boutois arrivant à Barcelone et découvrant Gabriel Ferrater. Mais c'est donc, étant étudiant en philologie romane, je ne voulais pas faire mon mémoire sur un auteur français parce que c'est trop rabâché. Et donc, je voulais faire mon mémoire sur un poète espagnol. Pour ce faire, je me suis rendu en Espagne. Et là, au lieu d'entendre de l'espagnol, j'ai entendu du catalan. Donc, j'ai été interpellé. J'ai fait que, justement, le milieu où je me trouvais, dans le milieu où je me trouvais, se trouvaient aussi des petits-fils de grands poètes catalans, et donc j'étais introduit dans le milieu littéraire catalan, comme ça, d'une façon... Donc, c'est peut-être le destin qui l'a voulu, j'espère, en tout cas, que c'est la main de Dieu, peut-être, qui m'a guidé, j'en sais rien, mais enfin, voilà, les choses se sont déroulées comme ça, un concours heureux de circonstances, ou malheureux, peut-être, parce que, à cause de Ferrater, je suis devenu un poète publié, alors que si je n'avais jamais été publié, peut-être que j'aurais cessé absolument de faire de la poésie et je n'aurais pas subi cette malédiction. Comme dit Baudelaire au début, vous connaissez le premier poème des Fleurs du Mal, sa mère, que n'ai-je mis au monde tout un nœud de vipère, dit-elle. Et bien voilà, je n'ai pas su un autre vide. Ma mère n'a pas eu, en tout cas parce que ma mère a fini par savoir, parce que j'ai dû prendre cette année, mais d'abord, ma mère a fini par savoir que j'étais un poète assez renommé, et ça ne lui déplaisait pas, en fond.
Gabriel Ferrater, vous disiez qu'il a eu une vie assez tragique, etc. Dans un de vos textes, vous dites « Une nuit de solitude à San Cugat,
Cugat,
oui. Voulu mourir tête à un sac. »
Ah ben oui, c'est délicat à dire, mais c'est de cette façon-là qu'il s'est donné la mort. Oui. Donc en mettant sa tête dans un sac en plastique.
Comme Bruno Buttelheim.
Oui.
Bon, comme ça aussi, oui. Les poètes qui vous ont, il y a eu Jaime de Emma, bien sûr. Oui, je vous dis, Gabriel Ferrater, donc il faudrait dire que vous avez fait les traductions, je crois que vos droits de traduction sont allés à l'Institut Ramon, alors je sais pas comment il faut dire, Ramon Llull.
Ah oui, Ramon Llull. C'est-à-dire c'est l'Institut Ramon Llull qui a aidé à la traduction. Donc j'ai été en partie payé par cet institut pour faire cette traduction. Et c'est grâce à mon éditeur qui a... Parce que même s'il n'y avait pas eu l'aide de l'Institut Ramon Llull, la traduction a été faite et payée par l'éditeur.
Par contre, nous, on est un peu, en France, un peu frileux, puisqu'il a fallu attendre toutes ces années pour avoir quand même l'œuvre de Ferrater disponible en langue française.
Ben oui, figurez-vous que j'avais déjà proposé aux éditions Segers quand j'étais étudiant, donc ma traduction du poème inachevé, et ça a été refusé. Dans l'intervalle, il y a eu une petite publication qui était faite ici en Belgique, mais qui n'a guère connu de diffusion, rien que du poème achevé et de la traduction que j'avais faite, et des notes.
Les poètes qui vous ont influencé, il y a Raymond Queneau qui vous a aidé, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que Queneau a exercé une influence sur votre
Nul,
écriture, hein?
non,
Non, je n'ai pas très bien vu ce qui pouvait vous, un petit peu
non.
vous. Oui. Par contre, quelqu'un qui a écrit La vie ordinaire, hein, Une vie ordinaire, c'est
Georges
Georges Perros.
Féroce, oui.
Oui.
Mais je ne peux pas dire non plus qu'il
Oui.
ait une influence sur moi, mais
Oui.
je veux dire que nous, je me sens proche de
Oui.
lui. Parce que donc c'est un homme aussi, donc il s'est mis à écrire comme ça une poésie de sa vie concrète, par exemple. Il était marié, il avait des enfants, et quand sa femme et ses enfants étaient au lit, le soir, sur la table de la cuisine, il écrivait un petit peu le bilan de la journée, si vous voulez, en vers demi-syllabes, en octosyllabes. Et ça a fait une espèce d'épopée, finalement, une épopée de la vie, ce qu'il appelait ça,
De
de
la
la
vie
vie ordinaire,
ordinaire.
de la vie ordinaire, donc ça s'appelle une vie ordinaire. Et alors, voilà, c'est très émouvant, je trouve, cette petite narration, comme ça, avec de temps en temps une réflexion, justement. C'est tout à fait un peu comme Ferrater a fait. J'ai écrit plus tard, d'ailleurs, un poème qui sera peut-être publié, qui s'appelle Une vie ordinaire, où je compare alors Ferrater et Perros. C'était étonnant de voir que ces deux hommes n'étaient pas pratiquement contemporains. Hélas, ils sont morts tous les deux très jeunes. Perros, il est mort donc d'un cancer à 55 ans. Mais c'est étonnant de voir comment, étant d'une même génération, ils ont finalement une conception d'existence à peu près semblable. C'est remarquable.
Oui, j'ai fait cette réflexion aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses
Ah ben voilà.
qui vous. Et même avec vous, qui vous rapprochent un peu avec Perros.
Perros, oui.
Et, oui.
C'est Perros, je l'ai rencontré tout simplement parce qu'il a émis le vœu de me voir. Alors j'ai été comme ça, je raconte ça dans mon poème, dans mon livre Marché au charbon,
Marché au charbon,
ça s'appelle donc Voyage
oui.
breton, oui.
Vous dites, j'étais parti pour la Bretagne afin d'y voir Georges Perros, un grand poète qui s'exile loin de Paris, avec femme et trois enfants, bien mal élevé évidemment.
Très mal élevé.
Poète un peu dé, pardon,
C'est pas bien mal élevé, non, c'est très mal élevé. Très mal élevé, évidemment. Et alors, justement, je dis grand
Vous êtes un
poème.
peu découragé,
Oui.
dites ça.
Oui. Alors, ben, oui, justement. D'abord, il n'aimait pas que j'aie écrit un grand poème. J'avais dit que. D'ailleurs, s'il y a jamais une nouvelle édition de Marché au charbon, oui, je changerai ça. Je dis, je mettrai non pas un grand poème, mais je mettrai un pauvre poète. Et alors que. Justement, pour un peu décourager, là, il m'a posé la question, pourquoi est-ce que tu dis découragé?